Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin, nous allons ensemble dresser un bilan de l'opération Sangaris en Centrafrique. Vous en souvenez certainement, il y a un an, la France déployait sur le terrain 2000 soldats pour restaurer la sécurité. À l'époque, il y avait urgence, le pays glissait vers le chaos, emporté dans une spirale de violence communautaire et interreligieuse. On parlait même de situation pré-génocidaire. Alors un an après, quel bilan peut-on dresser de cette intervention française? La normalisation de la Centrafrique est-elle en marche? Comment parvenir à la paix? Vous nous rejoignez, vos commentaires évidemment nous intéressent, surtout vous qui nous écoutez en ce moment en Centrafrique. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Dans un instant, comme tous les matins, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction des RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et avant de passer au standard, je vous rappelle que demain, RFI vous propose une journée spéciale en compagnie d'Abderrahmane Sissako. Demain, nous serons à la veille de la sortie en France de son film Timbuktu, film présenté en mai dernier au Festival de Cannes, en compétition officielle. La presse avait adoré son film. Le public aura donc la chance, demain, le public français, de découvrir donc Timbuktu. Et pour l'occasion, eh bien, le réalisateur mauritanien sera l'invité fil rouge de la journée. Il sera d'ailleurs le rédacteur en chef d'Appel sur l'actualité, c'est donc lui qui prendra les commandes de l'émission, qui déterminera le contenu de l'émission. Et parmi les sujets d'actualité, Abderrahmane Sissako vous propose de débattre, écoutez bien, sur le tripatouillage des constitutions en Afrique. Il souhaite également lancer le débat sur le choix de Michaël Jean à la tête de la francophonie. Et puis, autre sujet qui tient à cœur en ce moment, Abderrahmane Sissako, ce sont les bavures de la police américaine contre les Noirs. Donc, Abderrahmane Sissako attend vos commentaires. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et vous pourrez aussi, évidemment, lui poser vos questions sur ses films, sa carrière ou encore sur le cinéma africain. 33 9 693 693 70. La première question nous vient de Bamako. Nous allons au Mali. Bonjour Daouda.
Bonjour Juan.
On vous écoute. Vous avez des questions concernant les réfugiés syriens.
Effectivement. Bonjour à RFI et bonjour à tous les auditeurs. Nous savons que présentement, il y a plus d'un million de réfugiés syriens au Liban. Donc, en même temps, les femmes viennent de suspendre son aide, l'aide alimentaire qu'elle a accordée à ces réfugiés. Donc, ce qui, à mon sens, pose un problème. Donc, je voudrais savoir quelles peuvent être les conséquences de ce flux de réfugiés sur l'équilibre même de ce pays qu'est le Liban. Mmh.
Effectivement, bonne question. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai que faute d'argent, la semaine dernière, le Programme Alimentaire Mondial annonçait la suspension de son aide aux réfugiés syriens. Alors on disait que cette mesure allait évidemment affecter 2 millions de personnes en Turquie, en Jordanie, en Égypte, au Liban. Le Liban, comme le rappelait à l'instant Daouda, qui est certainement le pays le plus touché par cette crise. Mais rebondissement, vendredi soir, effectivement, le PAM annonce qu'il va pouvoir encore poursuivre un tout petit peu l'aide destinée aux réfugiés.
Absolument, grâce à un afflux de dons, notamment via les réseaux sociaux. En 24 heures, le Programme Alimentaire Mondial a pu réunir en urgence plus de 21 millions de dollars, ce qui lui permet de ne pas interrompre cette aide alimentaire à 1 700 000 réfugiés syriens. Mais cela ne résout évidemment pas le problème de fond pour tous les pays qui accueillent des réfugiés syriens, et notamment le Liban, dont nous parle Daouda, notre auditeur. Alors, un mot des chiffres. Officiellement, 1 200 000 réfugiés syriens sont présents au Liban. Certaines ONG présentes sur place parlent 1,5 million de personnes. Mmh. Alors, si on rapporte ça à la population libanaise, ça signifie tout simplement que un tiers ou un quart des habitants du Liban sont des réfugiés syriens. Ouais. Chacun peut rapporter ça à la population de son propre pays.
Par exemple, en France, on accueillerait en ce moment 24 millions de réfugiés.
Voilà, il faut se représenter ça à l'échelle nationale de chaque pays de nos auditeurs. Cela représente un poids colossal sur l'économie, sur les services, même si la communauté internationale aide massivement les pays frontaliers de la Syrie qui sont confrontés à l'exode des réfugiés depuis 3 ans et demi. Alors un seul exemple, hein, le système scolaire libanais a été confronté à un afflux d'élèves syriens. On parle de 100 000 élèves en plus dans les écoles libanaises, saturées donc par cet afflux soudain. Cela crée évidemment, en plus des conséquences sur l'économie et les services, des tensions sociales entre la population libanaise et les réfugiés syriens. On a vu aussi des perquisitions de la police libanaise chez des réfugiés syriens avec le soupçon que certains d'entre eux puissent être affiliés à tel ou tel groupe djihadiste présent en Syrie. On voit bien que tout ça est représente une marmite en ébullition dans un contexte particulier qui est celui du Liban où l'équilibre confessionnel est déjà complexe et fragile. Hein. C'est un pays mosaïque. Le Liban, il y a les chrétiens, les musulmans chiites, les musulmans sunnites, les druzes, et le système politique libanais repose sur la tentative de faire vivre ensemble cette diversité. Le Liban, qui est par ailleurs politiquement divisé sur une ligne de fracture qui est celle du conflit en Syrie, pays voisin. Certaines forces politiques, à commencer par le Hezbollah chiite libanais, soutiennent le pouvoir de Bachar al-Assad en Syrie. Le Hezbollah qui combat aux côtés de l'armée régulière
syrienne. Qui a déployé d'ailleurs plusieurs milliers d'hommes sur le terrain.
Absolument. On voit bien donc que ce pays est confronté aussi politiquement à ce qui se passe de l'autre côté de sa frontière. Et cela crée une crise politique au Liban, un pays qui n'a plus de président depuis le printemps dernier et dont le Parlement vient de prolonger son maintien jusqu'en 2017. Donc, pour se résumer, crise économique, sociale, politique, démographique même, le Liban est effectivement fragilisé. La communauté internationale en est consciente et aussi les ONG, et ce n'est pas un hasard, hein, si ces jours-ci, un certain nombre d'ONG ont critiqué le fait que les pays occidentaux, notamment la France, qui doit accueillir 500 réfugiés syriens, ne prenaient pas leur part de ce fardeau qui touche effectivement un certain nombre de pays voisins de la Syrie, essentiellement la Jordanie, la Turquie et le Liban, et qui sont donc exposés à toutes les conséquences de cette crise syrienne.
Merci Nicolas Falaise de cet éclairage, merci d'être venu répondre à Daouda. 33 9 693 693 70, nous allons parler d'espace avec Abel, qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Abel.
Bonjour,
bonjour
les éditeurs de RFI.
Vous êtes dans la capitale togolaise. Vous avez des questions concernant Ariane 6?
Oui, j'ai appris sur les zones de RFI que l'Europe veut construire une nouvelle fusée appelée Ariane 6. J'ai à propos des questions. Qu'est-ce que Ariane 6 aura de plus que les fusées précédentes, alors même qu'elle est produite à moindre coût? Et qu'est-ce que ce nouveau projet peut apporter à l'Europe?
Ah, effectivement, c'est vrai qu'Ariane 6 va permettre à l'Europe spatiale d'entrer dans l'ère des fusées à bas coût. Jean-Yves Le Gall est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes de votre emploi du temps particulièrement chargé. Vous sortez exclusivement pour l'émission d'une réunion importante. Vous êtes le président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Alors effectivement, la semaine dernière, les ministres de l'espace des États membres de l'Agence Spatiale Européenne ont décidé de mettre sur la table 4 milliards d'euros pour construire Ariane 6. Ariane 6, c'est cette fusée européenne qui est donc censée remplacer Ariane 5. Mais Ariane 6 sera moins chère qu'Ariane 5. Ça va changer quoi concrètement?
Mais aujourd'hui, l'enjeu principal auquel nous sommes confrontés, c'est d'abaisser le coût de l'accès à l'orbite. Mettre, en d'autres termes, mettre des satellites en orbite pour que ça coûte le moins cher possible, parce qu'on veut avoir de plus en plus de satellites, et évidemment, il y a une concurrence assez forte. Et donc, au cours des dernières années, les États-Unis ont massivement investi dans l'innovation, et aujourd'hui, Ariane 5 est le meilleur lanceur du monde. Nous avons encore procédé avec succès au 63e lancement réussi d'affilée, c'était samedi soir, mais si on se projette à quelques années, on voit bien qu'il faut baisser les coûts, et c'est pour cela donc que les ministres ont décidé que nous allions développer Ariane 6.
Oui, Ariane 5, meilleur lanceur du monde, mais un lancement d'Ariane 5 coûte, si mes chiffres sont bons, vous allez peut-être les confirmer ou les démentir, Jean-Yves Le Gall, 170 millions d'euros, alors que l'américain SpaceX, qui est votre concurrent principal aujourd'hui, facture lui, on va dire 50 millions d'euros par lancement.
Oui, alors bon, 168 millions d'euros, c'est pour lancer deux satellites, mais on voit bien que c'est vrai que si on compare à 50 millions d'euros par lancement pour SpaceX, si on multiplie par deux, ça fait 100, comparé à 170, et donc 100 millions d'euros par lancement, c'est l'objectif d'Ariane 6, et c'est pour cela que il a été décidé de développer ce nouveau lanceur.
Comment vous allez réduire les coûts ?
Bien écoutez, Ariane 6, la clé du succès d'Ariane 6, il y en a trois. La première, c'est un lanceur au design beaucoup plus épuré qu'Ariane 5. Ariane 5 a été conçu au début des années 80. Depuis, évidemment, la technologie a fait des progrès. Donc, ça sera un lanceur beaucoup plus simple à fabriquer, à mettre en œuvre. Donc, ça, c'est la première condition du succès. La deuxième condition, c'est une organisation industrielle simplifiée. Ariane 5, c'était quand même un moteur de développement technologique pour l'Europe. Et donc aujourd'hui, le lanceur est fabriqué dans 25 sites différents en Europe. Pour Ariane 6, vous avez vu que les deux principaux constructeurs, Airbus pour le système et Safran pour les moteurs, ont créé une joint venture qui s'appelle Airbus Safran Launchers. Et donc, ça va permettre à cette organisation industrielle simplifiée, là aussi, de réduire les coûts. Et puis, la troisième condition, eh bien, c'est le fait que les États européens vont se servir de façon systématique d'Ariane 6 pour lancer leurs satellites gouvernementaux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça sera le cas demain avec Ariane 6.
Ariane 5 qui sera tout aussi performante qu'Ariane 5, malgré, on va dire, la fusée à bas coût.
Ariane 6 aura bien sûr tout l'héritage d'Ariane 5, les mêmes standards de qualité, et puis comme c'est un lanceur qui va être développé 30 ans plus tard, eh bien sera beaucoup plus moderne, et donc c'est la clé de la continuation du succès de l'Europe spatiale.
D'accord, premier lancement prévu en 2020 ?
Premier lancement prévu en 2020, donc c'est loin, mais en même temps dans le spatial c'est demain, et donc les équipes ont déjà commencé à travailler après le superbe succès de Luxembourg, c'était mardi dernier.
Merci Jean-Yves Le Gall d'avoir été en direct avec nous et merci d'avoir répondu à Abel Delomé. Je rappelle que vous êtes le président du Centre National d'Études Spatiales. 33 9 693 693 70. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous allez bien Alejandro?
Très bien.
Je retrouve ma petite fiche, on va parler football évidemment. Vous êtes le chef du service des sports des RFI. Nour nous appelle de Garoua, c'est au nord du Cameroun. Bonjour Nour.
Bonjour Juan, bonjour Alejandro.
Alors on va tendre l'oreille, le réseau de téléphone n'est pas très bon avec avec Garoua. Vous avez des questions concernant la CAN 2015?
Oui, ouais, je voulais revenir sur le tirage au sort de la CAN 2015 qui a eu lieu mercredi en Guinée équatoriale. Alors Juan, vous avez constaté avec moi que la CAF a d'abord réparti les chapeaux. À 4, nous avons le chapeau 1 composé de Guinée, Zambie, Ghana et Côte d'Ivoire. Alors, Roi, je voulais, ma question est de savoir quels sont les critères de la CAF pour la répartition des chapeaux.
Alors,
quand je vois la Zambie qui est en chapeau 1 et l'Algérie qui se trouve en chapeau 2,
oui.
On constate que l'Algérie a pris part à toutes les compétitions, tandis que la Zambie non. Et quelle sera donc l'incidence de ces répartitions sur le déroulement de la compétition?
Alors, c'est vraiment une question pour les passionnés du football. Hein. Alejandro Valente, c'est technique en même temps.
Oui.
Tirage au sort, donc c'était mercredi dernier. Mais avant ce tirage au sort, effectivement, la Confédération africaine de football avait réparti les 16 équipes qualifiées dans 4 chapeaux. Et pour composer ces chapeaux, comment a procédé la Confédération africaine de football?
Disons qu'ils ont fait, ils ont mis dans un mixeur les résultats de chacune des équipes lors des 3 dernières CAN, lors des phases éliminatoires de ces CAN là, dont la dernière, et des phases éliminatoires des 3 dernières Coupes du Monde. Donc ça
donc
permet de remonter quand même
les résultats de tous ces matchs et de cette compétition. On a tout mis dans un mixeur.
Exactement, et on a sorti donc ces fameux chapeaux. C'est ce qui fait que des équipes qui figurent parmi les têtes des séries, mettons la Zambie, qui n'a pas été très performante ces dernières années, quand même a profité des bons résultats, notamment à la CAN 2012, et ça lui permet quand même de figurer comme tête des séries. Précisons aussi que la Guinée équatoriale, en tant que pays hôte, était automatiquement à la tête du groupe A.
Ouais.
Et la conséquence, évidemment, c'est que ces chapeaux sont parfois assez déséquilibrés par rapport au niveau actuel des équipes. Et on se retrouve avec des groupes très relevés, et des groupes très faibles.
Oui, c'est ce que nous demandait Nour. Quelle incidence finalement peut avoir tout ce mécanisme de chapeau sur la compétition commencera dans un tout petit peu plus d'un mois?
On a deux groupes, les C et les D, qui réunissent certaines des meilleures équipes africaines. Je pense par exemple le groupe C, il y a le Ghana, l'Algérie, dont parlait notre ami Nour, l'Afrique du Sud, le Sénégal, quand même quatre équipes qui pourraient avoir l'ambition de remporter la CAN. Le groupe D, c'est pareil, il y a le Mali, les Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Donc ces groupes en plus vont s'affronter entre eux, c'est-à-dire le premier du groupe C avec le deuxième du groupe D, etc., en quart de finale, ce qui fait qu'il y aura des équipes très relevées qui seront éliminées dès le premier tour.
Donc c'est dommage pour le spectacle.
Voilà, d'autant que dans les deux autres groupes, on a des groupes quand même beaucoup plus faibles. Il y a la Guinée équatoriale, le Congo, le Burkina Faso et le Gabon dans le groupe A. Et dans le groupe B, la Zambie, la RDC, la Tunisie et les Cap-Vert. Comme ces groupes se croisent entre eux également en quart de finale, on aura des équipes pas très attendues qui seront certainement en demi-finale. Donc c'est une CAN à deux vitesses, si on veut, et on va avoir des surprises.
On suivra ça évidemment avec vous et avec tout le service des sports d'RFI. Coup d'envoi de la compétition le 17 janvier. Merci Alejandro Valente.
C'était un plaisir.
Bonne journée à Nour, qui nous appelait de Garoua. Nicaise, bonjour.
Bonjour.
Vous nous entendez bien.
Et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à vous, Juan Gomez. Et à tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions concernant Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien.
C'est exact. Nous avons appris sur la radio internationale que le président Moubarak ne sera plus poursuivi par la justice égyptienne, notamment par rapport aux charges qui étaient retenues contre lui, et notamment les crimes de sang. Alors, cette décision me suscite en moi deux questions. La première, c'est de savoir, est-ce que cette décision n'est pas une forme de réhabilitation de l'ex-président? Et la deuxième question, une telle décision, quelles peuvent être les conséquences pour l'avenir politique de l'Égypte?
Alexandre Bouchantil, correspondant des RFI au Caire, est avec nous. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Alors c'est vrai que la justice égyptienne a abandonné les poursuites contre Hosni Moubarak. Il était accusé de complicité de meurtre lors de la répression des manifestations de 2011, manifestation qui avait conduit au départ de Moubarak du pouvoir. Pourquoi a-t-il été blanchi? Est-ce qu'on peut dire, comme nous le demande Nicaise, qu'on assiste d'une certaine façon à une réhabilitation du régime Moubarak?
Alors d'abord, les poursuites n'ont pas été abandonnées puisque le procureur général s'est pourvu en cassation. Donc on va passer à la phase 3 du procès. Moubarak, rappelons-le, avait été condamné à 10 ans de prison en première instance devant la cour d'assises. En appel, il a été blanchi, encore la cassation. Par ailleurs, le juge même qui l'a condamné en appel et qui l'a blanchi, dans les attendus du procès, a expliqué que, en fait, il avait les mains liées et que, en réalité, le régime Moubarak était un régime corrompu, un régime dictatorial, mais que, en fait, le problème, c'était un problème de procédure pénale et qu'il fallait peut-être changer la loi. Par exemple, il y avait des accusations de corruption contre Moubarak du fait de leur ancienneté, étaient tombés par prescription, et donc ils disaient, voilà, les responsables, on ne peut pas leur faire une prescription quand ils sont au pouvoir. Commencer à compter les années de prescription après qu'ils quittent le pouvoir, parce que qui va les poursuivre quand ils sont au pouvoir? Mais en même temps, pour une bonne partie de ceux qui avaient fait cette révolution contre Moubarak, c'est un jugement complètement inacceptable et qui pour eux, effectivement, peut réhabiliter ce régime. D'ailleurs, des pro-Moubarak sont allés danser devant l'hôpital où il se trouve, l'hôpital militaire où il se trouve, et Moubarak les a salués comme s'il était encore une personnalité qui comptait.
Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, on a vu parallèlement des militants qui avaient manifesté pour son départ il y a 3 ans, retourner place Tahrir et tenter exprimer là aussi leur mécontentement. Alexandre Bouchanti, merci d'avoir été en direct avec nous du Caire. Merci à vous de de votre fidélité. D'autres questions évidemment à la rédaction mercredi, car demain, n'oubliez pas, émission spéciale avec Abderrahmane Sissako, rédacteur en chef d'Appel sur l'actualité. Il vous proposera de débattre sur le tripatouillage des constitutions en Afrique. Nous parlerons avec lui du choix de Michael Jean à la tête de la francophonie, mais aussi des bavures de la police américaine contre les Noirs.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de